VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. La lutte contre les djihadistes tout d'abord. En Libye, les forces pro-gouvernementales continuent leur progression dans le centre de la ville de Sirte, principal fief du groupe État islamique dans le pays. Les attaquants resserrent l'étau autour des djihadistes qui ont été la cible de frappes aériennes américaines lundi. Jacques Aristide.
Premières frappes américaines qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes à Sirte, d'après Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen, aussi connu comme le GNA. Washington a confirmé ces bombardements, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, indiquant qu'il s'agissait de frappes précises contre des cibles du groupe État islamique et qu'elles allaient se poursuivre. Un responsable de la Maison-Blanche a expliqué pour sa part que le président Barack Obama avait autorisé les forces armées américaines a effectué des frappes en appui aux forces du gouvernement d'Union à la demande du Premier ministre libyen. Mais pour M. Sarraj, ces frappes interviennent dans un cadre limité dans le temps et elles ne dépasseront pas Sirte et sa banlieue. Les forces pro-GNA tentent de reprendre la totalité de la ville de Sirte, dans laquelle elles sont entrées le 9 juin et où elles assiègent depuis les djihadistes. Elles sont ralenties par la forte résistance des djihadistes qui mènent à des contre-attaques, notamment perpétrant des attentats suicides à la voiture piégée.
Dans l'extrême nord du Cameroun, des membres d'un comité de vigilance soupçonné de collusion avec le groupe islamiste Boko Haram ont été arrêtés par l'armée camerounaise à Jacana. On reste en Afrique centrale, en RDC. La délégation de l'Union européenne a exhorté aujourd'hui les autorités congolaises et l'opposition à créer les conditions favorables au démarrage rapide du dialogue national en vue d'élections apaisées. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
C'est par le biais d'un communiqué que l'Union européenne a insisté sur l'importance d'un dialogue inclusif avec, selon leurs termes, toutes les autres parties concernées. Un dialogue qui doit démarrer, selon les Européens, le plus rapidement possible. Samedi dernier, le facilitateur Edem Kodjo avait reporté sine die le démarrage des travaux préparatoires au dialogue national. Le lendemain dimanche, l'opposant Étienne Tshisekedi avait accepté le principe du dialogue national, tout en récusant Edem Kodjo, l'accusant de faire le jeu de Joseph Kabila. Fin novembre, le chef de l'État au pouvoir depuis 2001 avait convoqué un dialogue national réunissant majorité, opposition et société civile en vue d'élections apaisées. Dimanche, la commission électorale a lancé des opérations d'enrôlement des électeurs qui devraient se dérouler sur 11 mois, selon son président Corneille Nanga, un délai qui rend quasi impossible la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année, alors que le mandat du président Kabila se termine le 19 décembre.
Conflit au Soudan du Sud, environ 60 000 personnes ont cherché refuge à l'étranger depuis la reprise des combats entre les factions rivales dans le pays. Les précisions de Nathalie Barge.
Le mois dernier, environ 52 000 personnes ont fui en Ouganda, 7 000 au Soudan et 1 000 au Kenya, a indiqué le HCR. En tout, près de 900 000 Sud-Soudanais ont quitté leur pays depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, selon l'agence onusienne. Les personnes fuyant la violence la plus récente dans la capitale Djouba ont dit avoir été refoulées par des groupes armés sur la route de l'Ouganda. L'accord de paix conclu il y a un an a été menacé à plusieurs reprises par les combats. Au plan politique, c'est toujours l'incertitude. Lama Coll, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a annoncé hier sa démission, estimant qu'il n'y avait plus d'accord de paix à appliquer à Djouba. Il accuse le président Salva Kiir d'avoir fait fuir son ancien vice-président Riek Machar pour lui trouver un remplaçant.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, le gouvernement a repris le paiement des allocations dues à d'anciens rebelles du Delta du Niger. Par contre, les Vengeurs du Delta du Niger, un nouveau groupe, ne sont pas concernés par cet accord conclu en 2009 avec le MEND. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a inauguré ce mardi à Niamey le plus grand hôpital du pays, construit gracieusement par la Chine, très présent économiquement dans le pays, pour un coût de plus de 45 milliards de francs CFA. D'une capacité de 500 lits, cet hôpital de référence situé dans la périphérie nord de la capitale est le plus moderne du pays. Le Niger fera appel à des médecins chinois, turcs et cubains pour y travailler, a précisé le ministre nigérian de la Santé, Kala Moutari. Dans le cadre de la série de VOA Afrique sur les membres des familles présidentielles en Afrique, la Guinée maintenant. La Guinée, où malgré l'interdiction faite aux membres de sa famille de se mêler de la gestion des affaires publiques, le président Alpha Condé fait face aux accusations de corruption contre son fils, qui se trouve être l'un de ses conseillers. Le chef de l'État guinéen a demandé que la lumière soit faite sur ces allégations. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara a recueilli des réactions de la population.
Vrai qu'il est mêlé à toutes les affaires minières ici.
Bon, moi je ne saurais le dire exactement, puisque je n'ai pas d'informations par rapport à ça.
Bien sûr, ils sont impliqués, beaucoup même, surtout son fils.
Son fils est impliqué dans le secteur minier, voilà, et largement même. Ça, c'est reconnu de tous.
Ce que je cherche, la femme n'est pas impliquée de près ou de loin dans la gestion du pays. Sa femme n'est ni ministre, son enfant n'est pas ministre. Il ne gère pas une association ou bien une entité gouvernementale.
Ils ne sont pas nombreux à se réclamer de la famille du président Condé. Ils sont presque absents de la scène politique en Guinée. Au RPG Arc-en-Ciel, on rejette toute accusation contre la famille du président. Souleymane Keïta, responsable des jeunes du parti et conseiller à la présidence de la République.
Vous voyez, le gouvernement, il n'y en a nulle part. Le président est un rassembleur. Il fait la différence entre la gestion de l'État et de ce qui n'est pas État. Donc, ce plan ne se pose pas.
Si le sujet est tabou à la mouvance présidentielle, le député Jean-Marc Téliano, ancien ministre de l'Agriculture, n'y va pas dans la langue de bois.
Quand vous parlez de sable mining, son fils est l'instigateur principal. Vous savez, on a toujours parlé d'audit. C'est Alpha Condé qui est monté sur ses chevaux pour parler d'audit. Mais aujourd'hui, il ne peut plus parler d'audit.
Le 11 mai dernier, le président Condé avait annoncé que la justice guinéenne allait faire la lumière sur les conditions dans lesquelles le britannique Sable Mining a acquis ses concessions minières en Guinée. Une réaction aux accusations de corruption révélées dans un rapport de Global Witness. Des révélations qui ont fait réagir les députés de l'opposition.
Nous avions demandé des enquêtes parlementaires, surtout concernant Sable Mining, et vu l'implication de Boba Sampil et Mohamed Alpha Condé, mais toujours, nous n'avions pas eu d'issue favorable.
Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
En Afrique du Sud, les Sud-Africains votent demain aux élections municipales. Le scrutin s'annonce ardu pour le parti au pouvoir, l'ANC, qui a facilement remporté jusqu'à présent toutes les élections locales et nationales depuis la fin de l'apartheid en 1994. Mais la formation du président Jacob Zuma est affaiblie politiquement par le contexte économique difficile et les scandales qui affectent le chef de l'État. La guerre en Syrie, les avions russes soutenant les forces du régime syrien ont freiné aujourd'hui l'offensive des rebelles qui cherchent à briser le siège imposé à leur quartier dans Alep, la métropole du Nord. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'offensive lancée dimanche est la plus importante menée par les rebelles depuis celle de 2012. Les précisions de Tatiana Mosso.
Alep est divisé entre quartier ouest, aux mains du régime, et quartier est, contrôlé par les rebelles et totalement assiégé par l'armée depuis le 17 juillet. Dans cette bataille, le régime est aidé par l'aviation russe et au sol par des combattants iraniens et du Hezbollah libanais. Les rebelles sont soutenus par le groupe djihadiste Front Fateh al-Sham, ex-Front al-Nosra, qui a coupé ses liens avec Al-Qaïda. Selon une source syrienne, quelques 5000 combattants pro-régime sont engagés dans la bataille. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une trentaine de civils ont été tués lundi par des tirs rebelles sur la zone gouvernementale d'Alep. Ailleurs, dans la province d'Alep, un raid aérien a visé la localité rebelle d'Atarabé, causant la mort de 6 personnes et en blessant 15 autres. Le secrétaire d'État John Kerry a exhorté les protagonistes à Alep à faire preuve de retenue. Par ailleurs, les médias officiels ont rapporté que des dizaines de familles étaient sorties des quartiers rebelles à travers des couloirs humanitaires ouverts depuis jeudi par le régime. Le week-end dernier, les autorités syriennes avaient annoncé la sortie de plusieurs familles et la reddition de quelques rebelles, mais des habitants et des insurgés avaient dénoncé des mensonges.
Merci pour votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Moi, je viens de là où...